Donc on a reçu la même consigne tous les deux, mais on l'a sans doute interprétée différemment. Donc je vais essayer de vous faire part un petit peu de, en gros, essayer de vous montrer huit vignettes, huit choses que j'ai vues dans cette vidéo, et je vais utiliser ces huit choses que j'ai vues dans la vidéo pour essayer de montrer comment, avec un point de vue cognitif, on a une approche aujourd'hui de l'engagement des élèves dans les apprentissages à quatre niveaux. Et je vais essayer ensuite de vous montrer comment ces quatre niveaux, l'actualité de la recherche en psychologie cognitive, peut les éclairer. D'accord? Donc, je pars de la vidéo, je sors huit caractéristiques, je les catégorise en quatre niveaux, et puis j'étaye un petit peu théoriquement. Donc, ce que j'ai vu dans la vidéo, c'est une enseignante qui est très claire sur l'enjeu d'apprentissage. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on apprend au cours de cette séance? C'est-à-dire, on est passé des exercices de grammaire à de la production écrite, et c'est sur les verbes au pluriel qu'on va transférer d'un contexte A vers un contexte B. J'ai vu aussi une chose qui m'a semblé très très claire dans sa façon de travailler, c'est une distinction entre la tâche, ce qu'elle fait faire aux élèves et qui est l'objet de la consigne, on va écrire à partir d'images, et la connaissance, c'est-à-dire le passage du verbe avec la marque du pluriel, qui n'est pas avec un S, mais avec un ENT. J'ai vu aussi, et ça c'était absolument magnifique, que ce qui préoccupait cette enseignante, mais je veux dire à chaque seconde de sa face dans sa façon de travailler, c'est de focaliser l'attention des élèves sur la tâche, sur l'enjeu, puis sur les supports. Il me semble que c'est aussi, mais ça c'est aussi lié à la configuration de sa salle de classe, qu'une chose qui occupe énormément de son activité, c'est la désignation. C'est-à-dire que parler des choses, ça ne suffit pas. Il faut parler et les montrer. Si on veut que les élèves y consacrent de l'attention. Ensuite, j'ai vu dans son activité qu'elle était préoccupée par le guidage. Les élèves ne sont pas là pour découvrir par eux-mêmes, ils ne sont pas là pour créer, ils sont là pour réaliser une tâche, et s'ils n'arrivent pas à réaliser la tâche, alors ils bénéficient d'un guidage. Voire même, à un moment, on le voit rarement, même si on a la version longue de la vidéo. On voit le problème résolu, c'est plus que de guider, c'est il y a ça à faire, tu arrives pas, tu pourrais faire comme ça, tu arrives pas, eh ben je te montre. Donc je fais à ta place. On voit aussi une chose importante au début de la vidéo, c'est que bien entendu, avant de commencer à apprendre, on active les connaissances qui vont être la base des connaissances nouvelles. Et on voit à plusieurs moments aussi que cette enseignante est manifestement préoccupée par la régulation immédiate. Quand un élève fait une erreur, on n'attend pas le lendemain ou la fin de l'heure, la fin de la séance pour agir. Dès que je vois une erreur, ça peut être de l'ordre de quelques secondes pour réguler là-dessus. Bien entendu, on pourrait développer. C'est le travail qu'a fait Patrick, et moi j'ai pas eu le courage de le faire et montrer des images ou des extraits de vidéos qui correspondent à ces 8 points d'observation. Mais là, je voudrais plus vous amener un petit peu du point de vue de la psychologie cognitive. Pour dire, voilà, en gros, ça correspond à quatre grandes catégories de traitement, de processus qui nous intéressent. Un qui est le processus d'engagement, un qui est tout ce qui relève des processus attentionnels, un autre qui la grande famille des processus qui concerne la réalisation de la tâche, et enfin une dernière grande famille qui est la famille des processus d'apprentissage eux-mêmes. Et si vous voulez, par rapport à la psychologie cognitive telle qu'elle était il y a 30 ou 40 ans, où quand on s'intéressait à l'engagement, on s'intéressait qu'à la motivation, je vais essayer de vous montrer aujourd'hui que c'est une approche de l'engagement dans les apprentissages qui prend en compte les quatre niveaux. Et l'engagement dans les apprentissages est en gros beaucoup plus important que la motivation. Et c'est ce que je vais essayer d'illustrer. Et avant de faire un zoom sur chacun, je voudrais vous dire aussi qu'une chose qui nous préoccupe vraiment beaucoup en psychologie cognitive depuis une trentaine d'années, c'est le fait que cette approche à quatre niveaux nous a permis de montrer que les deux derniers niveaux, la réalisation de la tâche et la réussite de l'apprentissage, pouvaient être en concurrence. Si la tâche est trop exigeante, si la tâche est trop difficile, l'élève peut complètement s'engager dans la tâche, et cet engagement dans la tâche va se faire au détriment de l'apprentissage. Je n'ai plus de ressources, je n'ai plus d'attention disponible pour apprendre, tellement je suis engagé dans la tâche. Et d'ailleurs, c'est sans doute l'origine de ma présence ici, une discussion qu'on avait avec Patrick et Marie Toulek-Théry, qui est de dire à partir d'approches complètement différentes et mais radicalement étrangères à la psychologie cognitive, j'ai vu que des personnes, notamment donc, didacticiennes comme Marie, en fait, se posaient exactement les mêmes questions et apportaient un petit peu les mêmes réponses. Donc maintenant, je vais développer sur l'importance de la motivation. Donc, chaque fois, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous dire, voilà, on en est sur les processus, est-ce qu'il y a des choses nouvelles au cours des 20-25 dernières années? Et chaque fois, j'illustrerai par une expérimentation, parce que ce matin, quand j'ai écouté les intervenants, etc., j'ai vu que les intervenants, ce qui caractérise leur mode de production de la connaissance, c'est l'observation de la réalité sur le terrain et la conduite d'entretien avec les acteurs sur le terrain. Or, nous, ce que nous faisons, c'est une approche complètement différente et complémentaire qui est l'expérimentation. Donc, nous, on cherche pas à comprendre ce qui se passe sur le terrain. On crée des situations complètement artificielles et on essaye de mettre à jour, d'expliquer des phénomènes. Par exemple, vous connaissez sans doute cette expérience célébrissime de Jean-Marc Montel et Pascal Huguet, dans lequel ils demandent à des élèves de réaliser une même tâche, hein, qui est reproduire ce machin-là. Certains élèves, ils leur disent il s'agit de reproduire un dessin. En d'autres, ils leur disent il s'agit de reproduire une figure géométrique. Et selon la façon dont ils formulent la consigne, dessin ou géométrie, on n'obtient pas du tout la même performance. Dans cette expérience-là, ils ont proposé cette tâche à des élèves très faibles ou à des élèves très forts. Et quand ils disent dessin, les élèves faibles et les élèves... C'était vraiment des élèves très, très faibles. Hein, et des élèves forts ont exactement la même performance. Quand on leur dit géométrie, les élèves faibles sont très faibles, les élèves forts sont très forts. Et voilà, ça, c'est typique des expérimentations qu'on fait pour essayer d'investiguer ce processus de la motivation qui ne peut pas se contenter de voir la motivation comme un simple processus de quoi j'ai envie et qu'est-ce qui a du sens pour moi. Comprendre la motivation, c'est aussi comprendre la façon dont les individus se représentent eux-mêmes, les systèmes de croyances qu'ils ont à propos d'eux-mêmes et les systèmes de croyances qu'ils ont à propos de leur environnement. C'est ça le grand apport, me semble-t-il, des dernières années, même si les bases des théories de la motivation, les systèmes attente valeur, c'est-à-dire, bon, en gros, hein, quelle est la signification de la tâche que l'enseignant me propose et quelles sont mes attentes de réussite par rapport à la tâche que l'enseignant me propose, hein, ces modèles-là de la motivation, ils existaient déjà il y a 35 ans, 30 ans, et la base n'a pas bougé. Là-dessus, la psychologie cognitive n'a pas fait... énormément de progrès. Deuxième chose qui nous intéresse beaucoup, c'est l'importance de l'attention. Alors là, je vais essayer de faire un raccourci ultra rapide. Des collègues de Clermont-Ferrand ont voulu répliquer l'expérience dessin-géométrie. D'accord ? Vous voyez, on habille différemment la tâche, mais c'est la même. Et ils ont obtenu un résultat contraire. Et donc c'est un accident expérimental, mais comme souvent, l'accident expérimental est encore plus intéressant que ce qui était attendu. Donc le paradigme, hein, les élèves ont la même chose à faire, la consigne est différente. Ici, il s'agit d'une tâche de dictée, mais à certains élèves, on leur raconte une histoire, je ne me souviens plus exactement, de photocopieuse qui est en panne, on est en art plastique et donc il faut prendre un texte, hein, parce qu'on n'a pas pu le photocopier. D'autres élèves, on leur dit que c'est une dictée, mais elle n'est pas notée. Et enfin, d'autres élèves, on leur dit c'est une dictée et c'est noté. D'accord ? Donc vous voyez l'attente des chercheurs. Si on dit c'est un art plastique, ils sont tranquilles, ils vont performer. Si on commence à leur dire que c'est une dictée, ils vont baisser. Et si en plus on dit que c'est noté, ils vont baisser encore. Et c'est exactement l'inverse qu'ils obtiennent. Ici, c'est le nombre d'erreurs. C'est pas la performance, c'est la performance inverse. Hein, c'est le nombre d'erreurs. Et les collègues voient que, ben, effectivement, ce que tout le monde sait, mais encore une fois, fallait-il obtenir ce résultat qui, je le répète, est contraire à leurs attentes. Mais si vous dites pas aux élèves qu'il y a un enjeu d'orthographe dans une tâche, comment voulez-vous qu'ils focalisent leur attention sur l'orthographe? Vous voyez? Et donc, vous avez ici, c'est ça que je voulais vous montrer, hein, c'est que l'enjeu motivationnel avec le système de croyance sur soi et l'enjeu attentionnel à quoi il faut faire attention peuvent produire des effets contraires. Et ça, bien entendu, c'est ce que les enseignants voient 153 fois par jour dans une salle de classe. Et l'idée, c'est de dire, nous, qui n'enseignons pas, comment on se démerde avec ça? Vous voyez, maintenant, il faut dire, ben voilà, il va bien falloir produire une théorie, un modèle de l'apprentissage, comment les humains apprennent, en disant, voilà, le processus de motivation pour la tâche et le processus d'attention pour la tâche peuvent produire des effets contraires. Une autre chose qui me semble importante et que on a montré dans la discipline, c'est les effets des menaces du stéréotype. Le plus célèbre, hein, la découverte. On est à Stanford, chez des très bons élèves, machin, etc. On donne à la moitié des étudiants 14 problèmes à résoudre. À l'autre moitié des étudiants, on leur dit, c'est les mêmes 14 problèmes à résoudre, mais on leur dit que c'est une mesure de l'intelligence. Dans la condition mesure de l'intelligence, vous voyez les étudiants noirs, les étudiants blancs. Dans la condition 14 problèmes à résoudre, le même truc, donc ça c'est la. Et là on voit très bien, hein, lors du débriefing de l'expérience, c'est les étudiants qui sont dans la première condition. Leur attention sur la tâche est limitée par le fait qu'ils gèrent, en même temps qu'ils ont réalisé la tâche, un stéréotype raciste. D'accord ? Et là, un stéréotype sexiste, c'est la même chose, les filles et les maths. Donc là, c'est réalisé à Toulouse, auprès de plusieurs centaines de gamins, dans la condition, c'est la même truc, hein, que tout à l'heure, hein, la figure de rien que je vous ai présentée, dans la condition géométrie, dans la condition saine exercice de mémoire, les garçons et les filles, les processus attentionnels des élèves subissent l'interférence de la gestion qu'ils doivent réaliser des stéréotypes racistes, sexistes, sociaux qui pèsent sur eux. Pendant que je suis en train de gérer des stéréotypes sociaux, je ne suis pas focalisé sur la tâche. Et là, c'est des centaines et des centaines de réplications de cet effet. C'est un des effets les plus solides de l'histoire de la psychologie cognitive que je vous montre là. Sur la réalisation de la tâche, l'idée, c'est moi qui me semble intéressante, c'est qu'on s'est amusé avec des collègues à dire bon, on va faire la liste des tâches qu'on trouve dans les salles de classe. Vous voyez, on a fait les ergonomes un petit peu, quoi. Et voilà, c'est quoi qu'on demande aux élèves de faire. Et on a créé un système de catégories. Bon, peu importe. Hein, et après, on s'est dit, mais ces tâches-là, laquelle n'existait pas il y a 100 ans. En fait, on n'en a trouvé aucune. Pour ça, j'ai bien aimé ce matin le truc sur l'innovation pédagogique, etc. Bon, on a du mal avec l'innovation pédagogique, hein, mais c'est parce qu'en fait, c'est difficile hein, d'être créatif dans ce domaine. Alors, on fait l'innovation pédagogique sur des machins, là, des supports, des trucs, quoi. Mais le cœur de l'activité d'apprentissage, hein, qui est que pour apprendre une connaissance, il faut que je réalise une activité. Le cœur, on peine à être innovant. Hein. Ce qui a changé, c'est le temps hein, qu'on accorde à telle tâche plutôt qu'à telle autre. C'est les équilibres entre les tâches qui ont changé, mais on peine vraiment. Et par ailleurs, ben, les travaux, ben, notamment les collègues de Paris 8, ont bien montré que effectivement, si le mode opératoire de la tâche n'est pas maîtrisée par l'élève, alors la tâche fonctionne comme un obstacle à l'apprentissage. Et par contre, il y a un papier très intéressant. Dans mon domaine, là où on galère énormément, c'est que depuis 40 ans, on essaie de répondre aux questions que les gens nous posent et de dire ben, est-ce qu'il y a une tâche qui est meilleure que les autres ? Vous voyez, est-ce qu'il y a des tâches qui sont plus efficaces pour apprendre ? Et les résultats qu'on a dans ce domaine sont complètement pourris. Quoi. On n'arrive pas. C'est super incohérent la littérature dans le domaine. Jusqu'à ce que l'an dernier, un papier soit paru de deux collègues. Je suis mort de jalousie. Elles ont eu l'idée, toutes les deux, de dire, mais en fait, c'est pas l'analyse de la tâche uniquement qu'il faut prendre en considération, c'est l'analyse de la tâche et le mode d'engagement dans la tâche. Donc c'est quand même, par rapport au thème de la journée, j'ai trouvé ça très intéressant. Elles ont dit, si on reprend toute la littérature sur les tâches et qu'à chaque fois, on distingue quatre modes d'engagement dans la tâche, tout d'un coup, la littérature devient cohérente. Et donc elles ont distingué un mode qu'elles ont appelé passif, c'est sans doute pas un choix heureux. Hein. Il y a un autre collègue, Richard Meyer, qui appelle ça plutôt actif, mais cognitivement. D'accord ? Donc c'est, je suis engagé dans la tâche, je suis focalisé, je reçois des explications et j'accorde de l'attention à ces explications. Deuxième niveau, elles ont appelé actif. Donc là, les élèves, ils manipulent des supports, ils sélectionnent à l'intérieur de ces supports. Le troisième niveau, elles l'ont appelé le niveau constructif, là où les élèves vont générer de l'information, des interprétations. En gros, ils vont comprendre plus que ce qu'on leur explique. Ils vont faire des hypothèses, des inférences qui ne sont pas présentes dans ce qu'on leur, on leur donne. Et enfin, elles ont distingué un quatrième niveau interactif qui est que ce travail de niveau 3 est réalisé dans le cadre de confrontation, etc. Et ce qu'elle montre, c'est que si on reprend la littérature dans le domaine, on voit là un truc cohérent qui est, premièrement, n'importe quelle tâche de mon tableau précédent peut être réalisée au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4. Même une tâche de lecture, même une tâche écouter un cours magistral peut être pris aux quatre niveaux. Et que quand on a toutes choses égales par ailleurs, hein, c'est des élèves de même niveau, il y a la même connaissance à apprendre et c'est la même tâche, alors on obtient le 4 qui marche mieux que le 3, le 3 qui marche mieux que le 2, et le 2 qui marche mieux que le 1. Bien entendu, toujours avec la même réserve, quand les élèves sont dans une tâche qui est à leur portée, si monter en niveau d'engagement, c'est juste rendre la tâche inaccessible, alors on obtient le résultat inverse. Ça va cette idée-là ? Je la trouve absolument lumineuse. C'est, je pense, le seul papier vraiment intéressant au cours écrit au cours des 10 dernières années dans mon domaine. Le dernier point, c'est l'importance des processus cognitifs. Et là, je voulais faire un clin d'œil parce que je me dis, depuis la fin des années 80, on a complètement changé, je pense, notre façon de voir. Et pourtant, dès ce bouquin d'Alfred Binet, 1894, on avait tous les éléments sous les yeux, mais on ne les a pas vus, y compris Binet. Ce qui aujourd'hui est communément accepté dans ma discipline, c'est que tout le monde peut apprendre à un très haut niveau. Par exemple, dans ce petit bouquin, Binet compare des grands calculateurs, vous savez, des gens qui ont un don pour le calcul, et il essaie de comprendre les mécanismes de production de cette performance. Et son idée, qui est plutôt de les comparer des étudiants de psycho. Vous savez, nous, les psychologues, on utilise toujours comme groupe contrôle des étudiants de psycho. Il a une idée un peu plus maligne, et il va les comparer à des caissiers du grand marché. Et donc, Il leur fait faire des tâches. Donc ici, c'est la multiplication, vous voyez. Donc, et ce qu'on note dans le tableau de résultats, c'est le temps mis pour faire la multiplication. Par exemple, vous avez pour faire 638 multiplié par 823, le premier calculateur met 6 secondes, le deuxième 56 secondes, le premier caissier 4 secondes et le deuxième caissier 12 secondes. Ça, aujourd'hui, on le sait. Hein. Et d'ailleurs, les caissiers, ce qui est marrant, c'est que c'est à l'époque qu'on ne faisait pas différencier entre la psychologie clinique et la psychologie cognitive. Donc, il y a des entretiens cliniques. Et les quatre caissiers, les trois caissiers qu'il a vus, lui ont dit, vous savez, il nous a fallu 10 ans pour arriver à ce niveau. Hein, c'est des gosses qui sont sortis de l'école à 12 ans, ils ont été embauchés. Au bout d'un moment, ils sont allés à la caisse et ils disent, voilà, au bout de 10 ans, je suis... Aujourd'hui, on le sait, le meilleur prédicteur de la performance dans le domaine des apprentissages, c'est le temps passé à apprendre et à faire. Ces caissiers sont plus performants que des types qui sont doués et qui en font commerce hein, de leurs dons. Hein. C'est des gens qui faisaient, vous savez, des numéros de cabaret où le public pose des questions et on trouve la réponse. Et là, je me dis, bon sang de bois, si... Alors, ce qui est rigolo, c'est que dans les commentaires du tableau, Binet dit... Ce qui ferait qu'un étudiant en M1 prendrait un 2 sur 20 à son mémoire, il donne des commentaires qui disent le contraire des données de son tableau. Il se plante complètement dans la description des données et il en fait une interprétation à la Binet, quoi. Et du coup, je me dis, s'il avait vu correctement, on aurait gagné du temps, vous voyez. On n'aurait pas eu un 20e siècle pourri par les thèses QI et la psychométrie et toutes ces conneries-là. Une autre chose qui me semble importante quand même dans ma discipline, s'il y a un deuxième truc à sauver, c'est la perspective évolutionniste qui nous occupe depuis quelques années et la prise de conscience qu'en psychologie de l'apprentissage, en fait, on s'intéresse à deux grandes familles d'apprentissage qui n'ont à peu près rien à voir l'une avec l'autre. Les humains sont capables d'apprendre des connaissances primaires, c'est-à-dire des connaissances qui équipe l'espèce humaine depuis les débuts de l'Homo sapiens. Hein, le langage oral, la communication dans le groupe, les relations avec autrui, tout ce qu'on appelle les connaissances naïves. Vous savez, le soleil se lève à tel endroit et se couche à tel endroit. Ces apprentissages-là, ils sont inconscients. Ils sont non volontaires. Ils ne requièrent pas d'attention. Ils sont rapides. Ils ne requièrent pas de motivation. Les apprentissages secondaires, les apprentissages de connaissances qui viennent d'apparaître dans l'histoire de l'espèce humaine, les mathématiques, la langue écrite, etc., elles sont soutenues soit parce que vous avez une passion, par exemple vous avez une passion pour le jeu d'échecs, soit parce que vous avez un enseignant. Les mécanismes d'apprentissage des connaissances secondaires subissent des contraintes et obéissent à des mécanismes qui sont radicalement différents des connaissances primaires.
C'est pour ça que l'école n'est pas la vie.
Oui. Non, et c'est pour ça qu'on s'est mangé les doigts pendant 40 ans en essayant d'utiliser Piaget pour comprendre ce qui se passait dans une classe. Piaget, toute sa vie, il s'intéressait qu'à la première colonne. Il s'est jamais intéressé à la seconde. Et donc, nous, on dit... Et moi, j'ai grandi, j'ai été nourri et façonné. Je suis un enfant de Piaget. Il y a pas plus enfant de Piaget que moi. Mais au bout d'un moment, on s'est dit, mais merde, quoi. On pourrait relire sérieusement ce qu'il a écrit. Et si on relit sérieusement ce qu'il a écrit, on voit que la deuxième colonne ne l'intéresse pas du tout. Et on essaye de prendre la première colonne et de l'appliquer pour comprendre la deuxième. Les apprentissages scolaires donc subissent des contraintes différentes. Et donc, dans un papier là, récent, on a même vu qu'une caractéristique que dont David Gehry n'avait pas vue en 2008, c'est qu'une caractéristique des apprentissages de connaissances primaires, des apprentissages naturels, c'est que la généralisation fonctionne super bien. Le transfert fonctionne très très bien. Une caractéristique des apprentissages secondaires, c'est que la généralisation ne marche pas. Si la généralisation n'est pas conduite par l'enseignant, si le transfert n'est pas conduit par l'enseignant, l'élève tout seul éprouve énormément de difficultés à transférer en général. Et l'idée, ce serait tout simplement parce que les mécanismes d'apprentissage ne seraient pas les mêmes. Bon, il faut que j'arrête. Conclusion. Je crois, j'espère vous avoir convaincu de vous intéresser à cette approche en quatre niveaux hein, de l'engagement dans les apprentissages. Le niveau de la motivation, le niveau de l'attention, le niveau de la tâche et le niveau de l'apprentissage. Et finalement, quand on conçoit une situation d'enseignement, on conçoit à ces quatre niveaux. Hein, on conçoit pour réussir la motivation, pour réussir l'attention, pour réussir la tâche et pour réussir l'apprentissage de savoir. Deuxièmement, moi je suis ergonome au départ, l'exercice qu'on a fait chez nous, on n'a pas le droit de faire, hein, de s'intéresser en si peu de temps à une vidéo qui dure 5 minutes. Donc, vous êtes d'accord que cette vidéo, il aurait fallu lui consacrer des heures et des heures et des heures. Il y a une densité dans l'activité qui est vraiment impressionnante. Avec des collègues de Grenoble et des collègues de Bordeaux, on est en train de réfléchir à une hypothèse qui est, à mon avis, bien visible dans cette vidéo, qui est que peut-être que dans la compétence professionnelle des enseignants, en tout cas chez elles, il y a une composante primaire. C'est-à-dire que ce qui fait de moi un bon enseignant relève en partie de compétences qui ne sont pas uniquement des compétences qui, à un moment donné, ont été des compétences rationnelles et puis que j'ai automatisées et que j'ai routinicisées, je ne sais plus comment ils disent, mais des compétences qui relèvent de quelque chose qu'on a appris de façon implicite, qu'on a appris de façon non consciente. On travaille sur cette hypothèse et je dis ça parce que, effectivement, moi, le principal domaine d'application de mes travaux, c'est le secteur aéronautique, c'est pas l'école. Et dans le secteur aéronautique, je peux vous dire que c'est autre chose. Là, on est dans un domaine purement secondaire. Et quand on est dans un domaine purement secondaire, les procédures, ça marche. Les tâches prescrites, ça marche. Vous contraignez l'activité, vous augmentez la sécurité. Mais parce que c'est complètement secondaire. Mais si ça marche pas dans l'autre, c'est peut-être parce qu'il faut accepter qu'il y a une part non secondaire dans notre activité. Dernière chose, mais là c'est plus. Je me suis dit, j'utiliserais bien volontiers cette vidéo pour montrer cette fois-ci un aspect embêtant de notre métier, qui est le piège de la réponse attendue, hein, qui est que à un moment, je pense que cette collègue, elle a quand même une idée très précise de ce qu'elle attend du résultat de l'activité. Et entre avoir une idée précise de ce qu'on attend du résultat de l'apprentissage et ce qu'on attend du résultat de l'activité, il y a un hiatus qui me semble intéressant. Et enfin, la dernière question, elle était pour Patrick. En fait, cette vidéo, c'est un test de Rorschach. C'est purement projectif, en fait. C'était complètement bidon, mais donc c'est juste un bout de moi que je vous ai transmis. Merci.